RCF. Cette semaine sur RCF, nous nous intéressons à la figure d'un prêtre dont nous célébrons cette année le tricentenaire de la mort, 1722-2022. Et nous allons parler de ce prêtre costarmauricain, Jean Le Dugé, avec deux filles du Saint-Esprit, sœur Agnès Stéphan et sœur Anne-Marie Trommer. Sœur Anne-Marie Trommer qui est archiviste de la Congrégation des filles du Saint-Esprit, puisque, on va le dire un peu plus tard dans cette émission, Jean Le Dugé a à voir avec la Congrégation des filles du Saint-Esprit. Alors, on va parcourir au cours de cette émission la vie de ce prêtre, que l'on pourra retrouver bientôt dans un livre intitulé « Le bouquet de la mission ». On y reviendra d'ici la fin de cette émission. Il faut dire pour commencer que Jean Le Dugé est né à Plérin, dans les Côtes d'Armor. On peut dire ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur la formation qu'il a suivie avant d'être ordonné prêtre?
Jean Le Dugé est né à Plérin, tout près de la mer, dans le quartier qu'on appelle, c'est auprès du Roselier. Il était le dernier de 5 enfants. Ses parents étaient des laboureurs et un peu pêcheurs, puisqu'ils étaient au bord de la mer. Et il n'y avait pas d'école organisée à ce moment-là. Cependant, il a sans doute, probablement, été un peu apprendre à lire et à écrire avec quelqu'un qui réunissait les enfants du quartier comme ça. Et on s'est aperçu qu'il était quand même particulièrement doué intellectuellement. Donc, vers 12 ans, je pense, il est allé au collège à Saint-Brieuc. Et là, il était encore brillant. Ses parents ont fait un grand sacrifice de lui payer des études chez les jésuites à Rennes, où il est resté donc faire ses humanités. Et à un moment donné, il s'est trouvé, il avait sûrement pensé à la vie sacerdotale, mais il s'est trouvé être très hésitant. Il ne savait vraiment plus quoi faire, semble-t-il. Et il est allé tout seul, à 19 ans, alors que l'âge légal, c'était pour la majorité, c'était 21 ans. Il est parti faire un pèlerinage comme un mendiant jusqu'à Rome. Il est allé au tombeau des apôtres. Et c'est au retour de ce pèlerinage, il était sûrement très amaigri, il semblerait que sa famille le reconnaissait à peine. Donc il est resté un petit peu se reposer, se refaire, et il est allé se présenter à ce moment-là à l'évêque pour demander d'entrer au séminaire. Mais comme il avait fait déjà beaucoup d'études, il n'est resté qu'un an au séminaire et il a été ordonné prêtre à la cathédrale de Tréguier.
Et là, il a été ordonné, on peut le dire, en 1673. Oui. Et vous l'avez dit, il avait fait des études. C'était des études de théologie qu'il avait fait avant d'entrer au séminaire?
Oui, il avait fait ce qu'on appelle quand même, les humanités, mais en même temps, il a fait beaucoup d'études théologiques déjà à ce moment-là. Voilà, il était déjà bien plus tard dans sa vie, il obtiendra un doctorat en théologie, bien plus tard dans sa vie.
Pour raconter quelque chose de l'époque, c'est intéressant de parler aussi de comment s'est passé le tout début de son ministère. Ça va nous donner un peu une idée du contexte, sœur Anne-Marie.
Le tout début, une fois qu'il a été ordonné, il est revenu dire sa première messe à Plérin le 1er janvier 1674. Et ensuite, il y avait trop de prêtres. Il n'y avait pas assez de postes à leur donner. Et donc, Jean Le Dugé est resté dans sa famille et il a demandé l'autorisation d'exercer un ministère dans le quartier. Et c'est de cette façon qu'il est devenu un peu... Il a fait du catéchisme dans le quartier de Saint-Laurent à Plérin pendant plusieurs années. Voilà. Et en même temps, on dit qu'il a commencé à participer à des missions paroissiales, en particulier celle de L'Envolon dans ces années-là. Et donc, ce n'est qu'en 1678, c'est-à-dire 4 ans, 5 ans après son ordination, qu'il a été nommé recteur à Plouguenat.
Nous te louons, nous t'acclamons.
continuons d'évoquer la vie de Jean Leduger, ce prêtre costarmauricain, mort il y a 300 ans tout juste, avec deux sœurs, sœur Agnès Stéphan et sœur Anne-Marie Trommer, des filles du Saint-Esprit. Alors, vous l'avez évoqué, sœur Anne-Marie, vous avez dit qu'il faisait des missions et c'était un peu une tradition à l'époque. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de prêtres qui font des missions? Parce qu'on ne sait peut-être plus de quoi il s'agit.
À l'époque, je crois qu'on voulait vraiment re-christianiser la Bretagne. Il y avait eu donc le père Monnoir, qui était un jésuite, qui a initié beaucoup de missions, particulièrement dans le Finistère, mais débordant aussi un peu sur les Côtes d'Armor. Et ils n'étaient jamais seuls, ils étaient plusieurs prêtres en même temps, et c'était des recteurs de paroisse qui s'adjoignaient à lui pour vraiment faire comme des petites retraites, on peut dire, des retraites spirituelles pour tout le monde, pour tout le monde. Ça pouvait être une journée, par exemple, rien que pour les hommes, une autre pour les femmes, une autre pour les enfants. Et vraiment, ça pouvait durer jusqu'à 3 semaines, quelquefois. Donc, ils étaient une bande, comme on disait, une bande de missionnaires qui quittaient leur paroisse. Quand le chef de mission leur envoyait un billet en leur disant, voilà, vous êtes attendus tel jour, à tel endroit, pour commencer une mission. Et ils restaient, ils vivaient ensemble, là. Sur le lieu de la mission pendant quelquefois 3 semaines. Et au cours de ces missions-là, il prêchait beaucoup, beaucoup. Il confessait quelquefois aussi. Il a créé des confréries, par exemple pour confrérie de la croix. C'est pour ça qu'on a souvent des croix de mission dans nos paroisses, quelquefois encore. C'était une évangélisation concrète. Quelquefois aussi peut-être parce que les recteurs de l'époque n'étaient pas tous, finalement, n'avaient pas tous étudié beaucoup. Et donc, il y avait besoin, je crois, de suppléer au manque de connaissances de l'Évangile, de la parole de Dieu qu'avaient les prêtres, qu'avaient les recteurs.
Jean Leduger était un peu la chef de la bande de missionnaires dans les Côtes d'Armor.
Voilà, dans les Côtes d'Armor, assez vite, il s'est avéré que c'était lui vraiment qui allait être le chef de la mission, tout particulièrement pour tous les endroits où on ne parlait pas breton, où on parlait le galais, on disait les galaises. Et vraiment, c'est lui qui a organisé ses missions, même quand il était recteur. Mais alors, quand il n'a plus été recteur de paroisse et détaché par son évêque, alors là, pendant 30 ans, il n'a plus fait que ça, finalement. Il allait même sur le diocèse, sur Saint-Malo.
Et y compris aussi, même quelquefois au-delà. Par exemple, il a prêché une mission dans le camp militaire de la lande de Courouze, à Rennes. Voilà, donc il connaissait pas mal aussi les prêtres du diocèse de Rennes, dont un certain abbé Bélier, avec qui... Il a suivi des missions également et qu'il admirait beaucoup. L'abbé Bélier admirait beaucoup Jean Leduger.
Puis donc, vous l'avez dit, il sera recteur à Plouguenat, puis après à Moncontour et après détaché, ce qui va lui permettre de vivre ses missions puisqu'il aura une fonction qui est peu connue aujourd'hui. On appelle ça les scolastiques.
Scolastiques, oui.
Ils sont rattachés un peu à... Ils étaient rattachés à un lieu, mais avec une grande liberté, on peut dire.
Il était rattaché à la cathédrale. Et donc, c'était une dignité qui, d'après les historiens, s'était un peu vidée de son contenu ancien, mais qui conservait quand même la question d'un revenu. Donc, il avait les moyens de vivre et donc pouvait s'adonner complètement aux missions.
Regardons maintenant... quelques aspects de la personnalité de cette figure qu'était Jean Leduger. On peut dire qu'une de ses attentions premières, c'était la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
On peut dire d'abord qu'il la connaissait très très bien. Parce que quand il va publier le livre qu'on appelle le bouquet de la mission, qui reporte en fait des prédications, en marge, il y a des citations à n'en plus finir concernant le Nouveau Testament, mais tout autant l'Ancien Testament. Donc c'était quelqu'un qui était pétri de la parole de Dieu, qui la connaissait, qui l'avait intériorisée. On dit aussi que c'était un grand priant, que c'était quelqu'un qui continuait constamment à se former. Je crois que c'est ça. Et la parole de Dieu, il ne l'enseigne pas pour qu'on la prenne comme ça, il enseigne pour que les gens en vivent. Voilà, pour que ce soit leur... Parce que beaucoup de gens à ce moment-là étaient analphabètes, ils ne savaient pas lire. Donc, il leur révélait la parole de Dieu. Je crois que c'est ça que j'aimerais dire le plus. Et lui-même priait certainement beaucoup à partir de la parole de Dieu. Ce qui était un peu nouveau à l'époque.
Très nouveau, puisqu'on peut dire que pour les catholiques, la parole de Dieu est devenue beaucoup plus habituelle simplement après le Concile Vatican II, voilà. Même si bien sûr a été fréquentée avant. C'est vraiment le Concile Vatican II qui a déclenché finalement cette fréquentation de la parole. Sœur Anne-Marie ?
Oui, je lis ici, quand on médite, on fait comme ceux qui frappent avec de l'acier sur un caillou pour en faire sortir du feu. Il avait toujours le... Donc, notre cœur est froid, disait-il, et dur comme une pierre. Il n'est ni touché, ni du repentir de ses péchés, ni d'amour pour Dieu. Comment amollirez-vous la dureté de votre cœur? Comment l'enflammerez-vous d'amour pour Dieu, si ce n'est en le frappant de la pierre de la méditation? Et le souci que la parole de Dieu atteigne le cœur des gens. Et il était convaincu que toute personne, quelle que soit sa formation, quel que soit son niveau social ou d'éducation, était capable de Dieu et capable de goûter la parole de Dieu. Ça, c'est très fort dans son texte.
Alors, un autre aspect qu'on pourrait évoquer de la personnalité de Jean Ledugé, quelque chose d'important pour lui, la question de la formation. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ?
Déjà, la formation, il la faisait par les missions. Mais il créait aussi ce qu'on appelait des confréries. Des gens qui allaient continuer le travail qu'il avait commencé. Et puis, c'était un disciple des jésuites. Et donc, il avait connu le Père Monnoir, puisque c'est avec lui qu'il avait commencé. Et il avait d'autres jésuites qu'il fréquentait et qui l'aidaient. Et donc, à cause de ça, ses missions ont évolué assez vite et assez fortement vers des retraites pour les gens. Ou justement, pour les gens qui ne savaient pas lire, mais on leur donnait la parole de Dieu. Et ce n'était pas une formation morale, c'est une formation, comment on va dire ça Oui, comme dit Anne-Marie, c'était une formation pour que les gens se l'approprient vraiment, la parole de Dieu, et la vivent. Parce qu'après, on parlera peut-être de l'aspect social. C'était quelqu'un de très ouvert au niveau social, qui avait le souci des pauvres, parce que la parole de Dieu, elle ne peut pas ne pas nous conduire à aimer les gens et avoir le souci des pauvres.
Ce qu'il faut retenir quand on parle formation, c'est le souci de la formation de tout le monde, pas seulement de quelques-uns, de quelques privilégiés.
Tout le monde. Il dit, j'écris, je parle pour le peuple des campagnes. Je ne parle pas pour les grands érudits. Moi, je parle pour le peuple des campagnes.
Sœur Anne-Marie ?
Le langage lui-même, bon, il y a des répétitions dans le bouquet de la mission, mais c'est le signe aussi d'un langage parlé. Il parlait aux gens. Et quelqu'un a dit, l'ancien archiviste du diocèse qui s'appelait Duclesiou, il a dit que le bouquet de la mission, il faut le lire tout fort. Il faut se mettre dans la position de celui qui entendait ça et qui se laisse toucher. Et justement, c'est très fort. Je peux citer ce qui a été découvert. Il a écrit une préface pour un livre qui allait sortir. De cantiques composés par une demoiselle. Et il dit dans sa préface, eh ben, je suis d'accord pour que ce livre soit publié parce qu'il peut contribuer à former les gens. C'est écrit par une femme, mais il faut le publier.
Alors venons sur l'autre aspect que Sœur Agnès commençait d'évoquer. C'est un homme qui a aussi le souci des plus pauvres, déjà pour lui dans son ministère.
Oui. Par exemple, quand il a été nommé recteur donc, à Moncontour, il y avait là déjà des sœurs, les sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve, qui avaient déjà été fondées et qui tenaient une espèce de petit hôpital, on appelait ça l'hospice, où on recueillait les indigents, des gens qui n'avaient ni maison ni rien du tout. Et il y a des archives de ces sœurs qui disent bien qu'il avait vraiment le souci très particulier des pauvres de sa paroisse. Et on l'a vu, parce que je crois qu'il était assez athlétique quand même, on l'a vu monter la côte pour aller conduire des pauvres chez les sœurs en les portant sur son dos. Et il avait vraiment aussi demandé qu'il y ait donc un cimetière attenant à cet hospice qui soit pour les pauvres, pour qu'il soit inhumé décemment. Et il y a d'autres choses qu'on dit que quand il était à Moncontour, il donnait tout ce qu'il avait, y compris quelquefois les vêtements de sa mère qui tenait le presbytère. Voilà. C'était vraiment, pour lui, il en parle beaucoup dans le livre sur le bouquet de la mission. Il parle beaucoup des gens vraiment qui n'ont pas, par exemple, il dit très concrètement, si quelqu'un vient vous demander à manger, ne lui jetez pas ça par-dessus votre portail comme un chien, mais allez et remettez-lui en main propre ce que vous voulez lui donner, parce que celui à qui vous vous adressez, c'est Jésus-Christ. C'était vraiment quelque chose.
Matthieu 25, voilà,
tout
j'avais
à fait.
Faim
Matthieu
vous
25,
donné, et vous m'avez
à
donné
fait.
À manger.
Tout à fait.
On peut dire aussi qu'il donne des conseils justement concrets, très concrets, aux personnes qu'il rencontre, à ses paroissiens lors des missions, pour vivre justement cette, ce qu'on appellerait aujourd'hui cette solidarité, cette justice au quotidien en fait.
Oui, c'est ça. Il avait certainement une connaissance très profonde de la vie des gens. Alors par quel biais? Sans doute par... Il était lui-même de la terre. Il savait bien comment ça se passait. Mais il confessait aussi beaucoup. Et je pense que c'est un lieu aussi où on apprend à connaître les gens par le profond de la personne. Et donc, il n'hésite pas à interpeller les gens, à leur renvoyer une image de ce qui se passe. Par exemple, par rapport au bétail. Le bétail dans les campagnes, qu'on laisse divaguer chez le voisin, ou bien qu'on blesse quand on le trouve sur son propre terrain. Des choses pour les commerçants aussi, qui ont des mesures, des petites mesures et des mesures plus grandes, enfin, ça dépend. Donc tout ce côté injustice qu'il dénonce en fait, il a un côté prophète sur des faits très concrets. Et ça, c'est intéressant parce que ça donne aussi une peinture de la société du temps.
S'il par milliers trace de ta gloire, s'il par milliers Dieu dans notre histoire, s'il par milliers trace de ta gloire, s'il par milliers
Ta main, Seigneur, nous a donné des signes par milliers,
des signes par milliers.
Le chant de l'univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants, Dieu à l'œuvre dans nos temps.
Sur RCF, nous évoquons la figure de Jean Le Duché à l'occasion du site tricentenaire de sa mort avec sœur Anne-Marie Trauner et sœur Agnès Stéphane, fille du Saint-Esprit. J'ai dit que Jean Le Duché avait à voir avec les filles du Saint-Esprit. Alors je dois vous dire qu'avant cette émission, et il y a quelques semaines encore, je connaissais Marie Balavène, René Burel comme les fondatrices des filles du Saint-Esprit. Et voilà que je découvre que Jean Le Duché a aussi à voir avec la fondation de votre congrégation. De quelle manière? Racontez-nous.
Voilà. On peut dire que de toute manière, il ne terminait jamais des missions sans mettre en place des œuvres. Donc il y avait, on a parlé des petits hôpitaux, mais on peut parler aussi des écoles, des petites écoles. Et donc, il a soutenu vraiment Marie Balavène et René Burel. Peut-être qu'il a été l'initiateur même de l'ouverture de la première petite école, maison de charité du Légué, qui a été la première maison des sœurs. On l'appelait une maison de charité parce qu'il y avait la petite école, mais il y avait aussi le souci des pauvres. Il y avait les soins aux malades. Voilà. Alors, nous ne disons pas tout à fait qu'il est fondateur, comme on a dit longtemps, mais il est vraiment l'initiateur, certainement. Personnellement, je pense que le premier article de la règle de vie, c'est lui, certainement. Il fait le lien entre le Saint-Esprit et la charité. Pour lui, vraiment, la charité, c'était extrêmement important. C'était la mise en œuvre de l'Évangile.
Puis ce qui est intéressant de dire aussi, quand même, c'est que Marie Balavène, René Burel, Jean Le Duché, tous les trois n'habitaient pas très loin les uns des autres. C'est ça aussi la réalité.
Ils étaient nés tous les trois à Plérin, et vraiment, les terres en tout cas de Jean Le Duché et de René Burel se touchaient. Et puis Marie Balavène était au Légué, c'est là qu'elle a commencé. Donc ils étaient sur la même paroisse tous les trois. Donc je pense que c'est un petit trio qui a fondé la congrégation des filles du Saint-Esprit.
Alors ce qui est sympathique aussi, c'est que donc Jean Le Duché est né en 1649. Marie Balavène, née en 1666, donc Jean Le Duché avait déjà 17 ans quand Marie Balavène est née, et René Burel, née en 1682, trois générations différentes, trois positions sociales différentes, qui ont collaboré ensemble pour monter cette petite maison, qui aurait pu rester une toute petite maison. Mais en fait, Jean Le Duché n'a jamais mis la main sur ce groupe-là, puisque dès le départ, c'était dit que la maison, que les femmes qui viendraient là, devaient être nommées par le recteur de la paroisse de Plérin et reconnues par l'évêque de Saint-Brieuc. Donc dès le départ, c'était une œuvre paroissiale et une œuvre diocésaine, enfin, qui faisait partie du diocèse. Et donc, ensuite, il y a des collaborateurs divers qui sont venus et qui ont fait que le groupe s'est développé. Et les premiers collaborateurs sont le couple de la Garay, qui ont fait appel à ce petit groupe, parce qu'elles n'étaient que 8 sœurs quand le comte et la comtesse de la Garay les ont appelées à venir à Tadin. Elles n'étaient que 8. Et à partir de là, ça s'est dispersé à travers toute la Bretagne.
Et puis plus loin depuis en France et à travers le monde.
Et plus loin à travers le monde.
À l'occasion du tricentenaire de la mort de Jean Le Duché, vous présentez une expo à la médiathèque de la Maison Saint-Yves à Saint-Brieuc. Qu'est-ce que vous avez voulu donner à voir, sœur Anne-Marie?
Alors, d'abord précisons que c'est la Maison Saint-Yves qui organise l'exposition. Remettons les choses en place. C'est la Maison Saint-Yves parce que, justement, une des caractéristiques de cette année Jean Le Duché, c'est la volonté de restituer au diocèse les richesses inconnues des chrétiens de Saint-Brieuc et de diocèse. Jean Le Duché, ils le connaissent comme fondateur des filles du Saint-Esprit, entre guillemets. Or, avant tout, pour nous, il est le missionnaire, le priant, l'homme de charité. Et c'est ça qui a été fondateur pour les filles du Saint-Esprit. Il y a un poème qui dit que, ils ont fait les choses sans le savoir, en fait. Et ça a fleuri, quoi. C'est comme l'image que disait Agnès tout à l'heure, la graine qui germe, enfin, de l'arbre.
Pour terminer, qu'est-ce qui vous marque particulièrement? Qu'est-ce que vous retenez chacune d'entre vous dans la vie de Jean Lediger que vous avez, dans laquelle vous êtes plus replongé ces derniers temps, sans doute à l'occasion de ce tricentenaire? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que Jean Lediger, de quelle manière peut-il vous a-t-il parlé? Peut-il parler aujourd'hui?
Moi, je dirais simplement d'abord que, puisqu'on le restitue quelque part au diocèse, on va dire d'abord que c'est un pasteur proche des gens, qui les aime et qui vraiment leur donne le meilleur de ce qu'il connaît, c'est-à-dire la parole de Dieu, qu'il vit lui-même. Et vraiment, son désir, c'est vraiment que la charité imprègne notre Église. Et il fait un lien très profond entre la charité et le Saint-Esprit.
Sœur Anne-Marie ?
Il y a aussi la place qu'il donne à la Vierge. D'ailleurs, c'est la fin de l'article premier de notre règle de vie, où il est dit que si, comme le meilleur moyen d'obtenir du Saint-Esprit les grâces qu'on lui demande, c'est d'intéresser la Sainte Vierge. Et ça, je trouve très beau, parce que c'est d'intéresser la Sainte Vierge. Et donc, il fait toujours le lien entre l'Esprit, la Vierge, l'Église et la charité, toujours. Et puis, ce côté aussi, le souci que les gens se saisissent de la parole de Dieu. C'est aussi le début d'une individualisation. C'est pas seulement un enseignement, c'est que ça touche. Et en ce sens-là, il est très ignatien aussi.
Eh bien, merci à toutes les deux d'être venues nous parler de Jean Lediger. Je rappelle qu'on peut voir cette exposition consacrée à Jean Lediger à l'occasion du tricentenaire de sa mort à la Maison Sainte-Yves, à la médiathèque de la Maison Sainte-Yves. Et puis, d'ici quelques semaines, va sortir un livre à partir de celui que Jean Lediger a écrit, Le bouquet de la mission. Et on en reparlera à ce moment de ce livre et des écrits justement de Jean Lediger sur RCF. Merci à toutes les deux.